franceinter.fr.
Bonjour. À quoi ressemble Phnom Penh 40 ans après la prise de la ville par les Khmers rouges? À l'époque, le régime de Pol Pot avait vidé la ville de ses 2 millions d'habitants, envoyés de force dans les campagnes. 90% d'entre eux n'en sont jamais revenus. Quatre décennies plus tard, la capitale cambodgienne s'est repeuplée et connaît, comme beaucoup de mégapoles d'Asie, un développement anarchique, propice à la spéculation et à la corruption. Sa population, jeune, est tiraillée entre d'un côté le désir de se connecter au monde globalisé, à ses modes de vie et de consommation, de l'autre, des conditions de vie encore très pauvres. Un grand nombre de ruraux qui affluent dans la ville viennent travailler dans les usines qui se sont installées depuis peu. Comme d'autres pays d'Asie, le Cambodge est devenu un des ateliers du monde. Et ce sont les ouvriers de ces usines textiles qui se sont révoltés pour obtenir des augmentations de salaire fin 2013. Car la peur s'efface peu à peu dans ce pays, même si les libertés y sont encore très limitées et l'héritage des Khmers rouges loin d'avoir été complètement soldé. Phnom Penh, une renaissance made in Asia, c'est un reportage d'Alain Lefkovitch.
Interception, le magazine de la rédaction.
C'est tous des chauffeurs de tuk-tuk, c'est ça?
Oh non, plutôt de motodouk. Oui, il y en a aussi des chauffeurs de tuk-tuk.
Et en attendant les clients, ils jouent aux cartes?
Oui, c'est ça.
Alors, dès qu'il y a un minibus chargé de clients qui arrive, les chauffeurs de motodouk coursent le bus?
Oui, ils arrêtent de jouer et ils vont chercher les clients. Surtout des gens qui viennent de la campagne, tout ça, ils ne connaissent pas où on peut trouver des motodoubles, tout ça. Donc c'est plus facile à partir avec eux. Mais c'est vrai que la plupart des gens de la campagne, ils ne connaissent pas le prix, donc c'est plus facile aussi à faire augmenter le prix entre-temps.
C'est compliqué de circuler dans la ville, ça change beaucoup.
Les conducteurs de tuk-tuk, la plus difficulté, surtout c'est la circulation qui s'est passée dans la ville actuellement. À cette heure-ci, ça va encore, mais surtout le matin, quand les gens partent au travail ou à l'école ou au marché, et le soir aussi, quand ils rentrent, là, il y a trop de musculation de motos et de tuk-tuk et de voitures, donc c'est difficile de circuler.
Ça veut dire que Phnom Penh, c'est pas une ville qui est prévue pour les voitures et qui est prévue pour autant de motos. C'est une ville qui n'a pas été pensée pour ça.
Oui, je pense aussi ça. C'est avant, la route, c'est juste faite pour les motos, tout ça, pour circuler facilement. Mais peut-être qu'il n'a pas pensé à l'avenir, que comme aujourd'hui, ça commence à développer la ville et il y en a de plus en plus de voitures et on n'a pas pensé à ça.
À qui la faute? Sans doute à l'histoire avec un grand H de cette capitale considérée jadis, jusque dans les années 60, comme la Genève de l'Asie du Sud. L'histoire d'un herbicide, d'un génocide, d'une occupation, puis d'une renaissance, comme ici, en plein cœur de Phnom Penh, à quelques mètres seulement de la cohue du boulevard Monivong, au fond d'une ruelle calme, en dehors du temps. Avec les Datchan, vidéaste et pour l'occasion notre guide et interprète, nous allons à la rencontre de Sovan Pilong, jeune photographe cambodgien qui a découvert il y a peu cet endroit bien étrange, incarnation du renouveau après le cataclysme.
Cet endroit, avant, c'était une église, mais en fait, ça a changé après les Khmers Rouges. Après les Khmers Rouges, les populations reviennent à Phnom Penh. Ils commencent à s'installer, trouver l'endroit pour vivre. Et cet endroit, ça fait partie aussi d'un endroit que les gens choisissent. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de gens, beaucoup d'habitants. Et cet endroit, ça reste encore une église abandonnée, mais il y a ça devient un centre orphelinaire. Les orphelins vivent ici. Les gens peuvent aussi vivre ici. Certains d'autres habitants vivent dans petites maisons, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais petit à petit, ça a changé encore, surtout dans les années 90. Le centre orphelinat n'a plus de ressources pour continuer et du coup, ça devient des maisons, des petites maisons que les gens viennent de plus en plus pour s'installer, pour rester et vivre comme dans d'autres endroits de la ville. Et après ça, cet endroit, ce qui est spécifique, c'est que même si dans toute la ville, ça a développé, il y a des bâtiments qui sont de nouvelles construites, certains d'autres anciens bâtiments qui sont détruits, mais cet endroit, c'est pas détruit. Au lieu de détruire, il y a des gens qui viennent vivre de plus en plus en petites maisons, donc ça n'a pas changé.
Oui, alors c'est étonnant parce qu'on est dans la nef de l'église. C'est visible quand on regarde le plafond de cette église. Mais autour de nous, c'est effectivement des maisons en briques, en briques rouges. Chacun s'est construit son petit compartiment pour installer sa famille à l'intérieur de la nef de cette église. C'est assez étonnant comme lieu. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que sur chaque compartiment, à l'intérieur de cette église, il y a des adresses. Alors là, on est au numéro 10, j'imagine. Devant chaque porte, il y a un numéro. C'est le facteur, il vient ici déposer le courrier.
Quand je suis venu la première fois à cet endroit, en fait, il n'y en a pas encore les numéros de la maison, le numéro de la rue ou le nom de la personne, tout ça. Mais actuellement, ça commence à en avoir. Je pense que c'est pour faciliter à, par exemple, payer l'électricité, pour situer aussi là où il habite, aussi pour l'eau, tout ça. Par contre, pour la poste, je pense que les gens ne vont pas venir poster ici ou donner des lettres, des courriers non plus, par exemple.
Je
pense que c'est très beau de voir les gens qui commencent à marquer le numéro de la maison, le numéro de rue, tout ça. Ça, c'est comme une identité. C'est comme si eux, ils existent ici vraiment. C'est comme leur permanent qui reste, qui vit, qui s'installe. C'est comme leur propre maison. Il vit joyeusement actuellement et je suis content de voir ça. C'est un endroit spécifique, l'atmosphère, tout ça. Vous voyez, il y a des petits compartiments et les habitants vivent en communauté. Il y a des petits-enfants, il y a des gens qui vivent en faisant du commerce. Et ils vivent avec leur histoire à eux. Ils restent dans cette communauté et c'est différent par rapport à des autres endroits de la ville dont la plupart des endroits sont déjà développés. Il y a des nouvelles constructions, il y a des nouveaux bâtiments. Mais ici, c'est complètement différent. C'est un endroit qui reste, qui garde encore leurs souvenirs, leur mémoire, qui reste dans plein centre de ville. Si on sortait juste quelques secondes, quelques mètres d'ici, on entend des bruits, la moto, la voiture. Ici, c'est bien calme. Par contre, je me fais en ce moment des soucis pour le futur de cet endroit. J'ai peur que cet endroit va être aussi développé comme dans d'autres endroits de la ville. Et je pense que ce n'est pas pour. Il y a des petits changements, mais il ne faut pas faire comme dans les autres endroits avec des grands buildings.
Bernard Benyemi.
On l'attendait depuis plusieurs jours, aujourd'hui c'est fait. Phnom Penh est tombé aux mains des Khmers Rouges, cela s'est passé à 1h du matin, heure française. Aussitôt, la radio des Khmers Rouges a lancé un appel au calme. Elle a même demandé à tous les membres du gouvernement républicain de quitter le pays immédiatement dans leur propre intérêt. Pendant ce temps, dans les rues, selon le correspondant...
On est remonté sur nos propres forces.
déclare le Premier ministre Pol Pot, secrétaire général du Parti communiste Khmer. Et la population tout entière est ainsi mobilisée pour les grands travaux collectifs. Le premier objectif étant d'assurer l'autonomie alimentaire, c'est à la remise en état des réseaux d'irrigation et à la construction des grands canaux que fut donnée la priorité. Selon le gouvernement révolutionnaire, grâce au réservoir naturel du lac central Tonlé Sap, quatre fois plus grand que le lac Léman, les travaux d'irrigation ainsi réalisés mettent toutes les zones de culture à l'abri des sécheresses naturelles et permettent de doubler le rendement agricole. Les voies de communication, les routes et les ponts, bombardées, pilonnées pendant les cinq années de la guerre civile, sont reconstruits et remis progressivement en service.
On a vu ce pays sortir d'un traumatisme dont tout le monde a entendu parler à travers le monde. Mais ce que je trouve, moi, intéressant, c'est de voir cette nouvelle génération qui, tout d'un coup, dit « Bon, ben, certes, notre pays a été endeuillé par ce dont Jean Lacouture parlait, c'est-à-dire d'un ethnocide et non pas d'un génocide. » Les jeunes disent « C'est vrai que ce traumatisme, ils ne le manifestent pas comme ça, mais ils disent « On le porte en nous. » Mais nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de regarder vers l'avenir. Et notre avenir, voilà un peu comment on le dessine. On le dessine par la consommation. Donc changer de téléphone portable tous les 6 mois. Pouvoir aller, par exemple, en province, voyager. Cet aspect sur la mobilité du peuple cambodgien est quelque chose de fondamental. On est dans un pays qui, à 85%, est rural. On est dans un pays où changer de village, changer de province... C'était un peu comme nous en France il y a quelques dizaines d'années. C'est tout un périple, tout un processus intellectuel. Alors, ce n'est pas que les Cambodgiens ne sont pas en mesure de le faire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. On a ces traditions. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant la période des Khmers Rouges, le peuple cambodgien a été démantibulé en ce qui concerne ses racines. Donc, se recréer des racines, c'est quelque chose de fondamental. Mais en même temps, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, sa capacité à vouloir satisfaire des besoins qui, pour nous, nous semblent élémentaires, c'est-à-dire pouvoir aller dans un café, pouvoir aller au restaurant, rester avec des amis tard le soir, eh bien ça, ce sont des aspirations qui sont légitimes et qui n'ont pas été totalement mesurées par le pouvoir en place. Ils s'en rendent compte maintenant, ils essayent de rattraper le temps perdu. Vont-ils le faire? Je l'ignore. L'opposition est aussi confrontée à ce type de problématique. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui avance très très vite. Ils sont câblés, ils sont connectés. Ils vont en Malaisie, c'est pareil, au Myanmar également. Donc ce sont des peuples qui sont très sensibles à l'image, à la connectivité, beaucoup plus à mon avis qu'en Occident. Et je crois que c'est une des cartes qui peut permettre d'envisager un développement encore plus rapide que celui qu'on connaît.
À en croire Serge Rémy, spécialiste de l'urbanisme de Phnom Penh, la jeunesse cambodgienne aspire désormais et légitimement au droit à l'entertainment, au divertissement, aux réseaux sociaux, à la world connectivity. Exit les Khmers Rouges, place au tape à l'œil, au rutilant et à une exubérance débridée made in China. Direction Diamond Island, The Future of Phnom Penh, comme il est écrit sur le panneau qui accueille les visiteurs. Une fureur de vivre, celle de toute une jeunesse.
It is my holiday.
Moi, je suis en vacances et je viens ici pour retrouver mes amis. D'ailleurs, je viens ici tous les week-ends. Et avec mes amis, on reste là. Ici, c'est très populaire, bien plus que dans n'importe quel endroit de la ville. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de monde. Il y a des très jolies filles et des très beaux garçons qui viennent. Vous voyez, il y a aussi des voitures modernes et très belles. Avec un sound system dans le coffre, avec deux grosses enceintes. Ça crache du très bon son. Tous ceux qui ont une voiture comme ça, avec un sound system, peuvent venir ici gratuitement, ouvrir leur coffre et mettre le son à fond.
Où est-ce
que tu as trouvé l'argent pour acheter ça?
J'ai un boulot, j'assiste à un architecte et donc je gagne beaucoup d'argent, environ 1000 dollars par mois.
C'est l'un des lieux qui, moi, me fascine le plus quand je viens au Cambodge, quand je vis à Phnom Penh. Je me rappelle, en 2009, c'était vraiment complètement désert. Je pense qu'il y avait le bâtiment qui est derrière nous, qui est... ici, les gens l'appellent l'usine à mariage.
David Chou, jeune cinéaste cambodgien.
C'est un grand bâtiment où vous avez des grandes salles vides, toutes identiques, toutes identifiées par des lettres. Donc je crois que ça va de A à H, un truc comme ça. Et en fait, les gens viennent se marier là. Et c'est le lieu le plus classe pour, du coup, la nouvelle bourgeoisie cambodgienne pour venir se marier. Et si on est vraiment très riche, on loue carrément deux endroits ou trois endroits, on casse les murs, enfin, on enlève les murs, et on peut inviter 2000 personnes, 5000 personnes, quoi. Donc des trucs très impressionnants. Mais là, par exemple, là, je passais juste avant d'arriver en motodop, hein, et il y avait trois mariages côte à côte, quoi, qui se passent. Et on peut voir exactement les mêmes cérémonies avec les mêmes costumes et tout ça. Donc voilà, l'usine à mariage. Et il y a plein de choses complexes qu'on peut voir ici, mais pour moi, il y a aussi, avant tout, le désir de comprendre qu'est-ce qui attire tant de jeunes à venir tous les soirs, tous les gens qu'on voit autour de nous, qui arrivent en moto, qui regardent autour d'eux avec des yeux grands ouverts, qui sont des gens qui habitent à Phnom Penh en fait. Donc ils viennent, je leur demande, ils viennent 3-4 fois par semaine ici, au même endroit, à faire les mêmes tours. J'avais demandé aux jeunes quand je les voyais et je leur disais et t'aimes bien cet endroit? Et ils disent ouais, j'aime beaucoup et tout. Et je fais mais pourquoi tu viens tout le temps? Et ils me disent il y a de l'air quoi. Et on venait à cette idée quoi, où là tout d'un coup il y a un horizon dégagé. Quand on est dans Phnom Penh, c'est plus difficile de trouver ça, mais même en fait, même à Paris quoi. Et après, je pense que pour des jeunes de 17-20 ans, avoir quelque chose qui ressemble à Diamond Island, qui est un truc auquel ils n'ont jamais pu avoir accès avant, autre part que sur Internet, en regardant un peu comment ça se passe dans les pays étrangers. Ici, évidemment, il y a des choses d'inspiration un peu européenne, française, avec des colonnes romaines et tout, mais je pense qu'aussi ça ressemble surtout à des choses qu'on peut voir à Singapour, en Chine, des choses comme ça, donc d'architecture un peu nouvelle, un peu amnésique, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que du coup, tout d'un coup, ils ont l'impression de faire partie du monde connecté, quoi, pour parler un peu vulgairement. Je pense que c'est ça, à un moment, ils arrivent et ils disent « Ah ben oui, on fait partie du monde globalisé, tel qu'on peut le voir sur Facebook et sur YouTube. » Et il y a aussi un truc tout simple, en fait, c'est que c'est un endroit gratuit aussi, tout simplement. Ce que je disais « Mais alors pourquoi tu viens ici ?» Et ils me disaient « Mais il n'y a pas tellement d'endroits où je peux me poser, parce que du coup, sinon il faut payer dans un bar, un café ou un resto. » Et là, en fait, qu'est-ce que font les jeunes si vous les observez? Ils viennent, ils tournent en rond et ils se posent sur les places désertes en groupe. C'est vraiment ça, quoi, traîner, quoi. Les gens qui viennent sur Diamond Island, c'est pas les super riches. C'est plutôt la classe moyenne émergente, des jeunes avec des motos et des jolis habits. Ce qu'on appelle en fait ici des stiou, ça veut dire des jeunes adolescents un peu stylés, vont venir ici et tout ça. Mais je vois souvent des familles très modestes venir en fait. Soit des jeunes, ils viennent avec leurs frères et leurs petits frères à vélo, soit tout simplement, et ça arrive très souvent, et je pense tous les soirs on peut le voir, des familles entières avec des grands-mères qui, je pense, viennent même pas de Phnom Penh mais d'un peu plus loin, qui sont montées le week-end et qui viennent en tuk-tuk, et ils sont à 6 ou 7 sur le tuk-tuk, et ils sont venus voir Diamond Island.
Alors on dit qu'il va y avoir l'apparition de... Bah, vous voyez, regardez, une calèche.
Bah là, c'est clair hein, que là, on est en face de l'hôtel de ville. Si on ne sait pas qu'on est au Cambodge, on aura du mal à le deviner. Et Diamond Island a été créé pour ça, en fait, encore une fois, pour pas créer une identité cambodgienne, mais donner l'impression aux gens d'être partie du monde, en fait.
Palina, on est au milieu de ce qu'était avant le lac Bangka. Qu'est-ce qui s'est passé ici ?
Avant ici, c'était un grand lac, là où il y avait beaucoup d'habitants qui sont des pêcheurs, qui sont aussi des cultivateurs de légumes. Et après, ce terrain a été acheté et là maintenant, tout est rempli avec des sapres. Et le terrain s'est divisé en petites parcelles. Et là, on voit un terrain de football, mais je pense que c'est provisoire. Ça va bientôt développer.
Sur ce lac, avant, il y avait des pêcheurs. Ça faisait vivre des familles entières. Avec la modernisation, toute cette vie-là, tout ce lien social aussi qu'il y avait à l'époque a disparu.
Je pense
que la situation, ce n'est pas la même comme avant, après 79. En 79, il y a beaucoup de gens qui viennent de la campagne pour venir à Phnom Penh parce que c'est après la guerre. Donc, ce sont des nouveaux peuples qui viennent et qui trouvent facilement du travail, même ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Et il y a des bâtiments qui sont abandonnés, ils peuvent vivre là-bas, ils peuvent trouver et chercher une maison ou un bâtiment pour vivre facilement. Actuellement, ce n'est pas la même parce que déjà, il y a beaucoup de gens à Phnom Penh et surtout des gens qui ont du travail, les maisons sont occupées actuellement. Et pour ceux qui viennent de la campagne, ce n'est pas facile de trouver du travail. La seule chose qu'ils peuvent travailler, c'est le travail physique. Donc, ce n'est pas facile pour eux de travailler dur, ils n'ont pas l'habitude et en même temps, ils doivent louer des maisons pour vivre.
Il n'y a pas un programme municipal de construction de logements sociaux, par exemple ?
Non, il n'y en a pas. Ici, non, il n'y en a pas des principes du gouvernement ou municipal pour construire des bâtiments pour ces gens-là. Donc, ces gens-là doivent revenir à Phnom Penh, trouver du travail dans la construction et trouver leur maison eux-mêmes. Mais ils n'ont pas de choix parce que à la campagne, là où ils vivent, ils ne peuvent plus cultiver. Juste un petit terrain pour cultiver, ce n'est pas assez pour tout le monde. Et en plus, leurs ressources naturelles, par exemple la forêt, sont coupées. Ils ne peuvent plus aller chercher les plantes médecines comme avant et chercher des autres ressources pour vivre. Ils ne peuvent plus, des légumes, ils ne peuvent plus. Donc, ils doivent venir à Phnom Penh. Comme ils se déplacent, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est vraiment un très grand problème d'éducation. Donc, de génération en génération, ils vivent dans le petit travail, le travail physique. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir dans l'avenir. Les ouvriers que je rencontre, la plupart des gens, ils s'entre-dettent parce que parfois, il a besoin d'argent pour envoyer urgentement à la famille certains membres de la famille qui est malade, donc ils n'ont pas d'argent. Le cas de la maladie, ça devient de plus en plus grave au Cambodge parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Donc tout ce qu'ils gagnent, c'est juste pour manger, pour se faire nourrir et pour payer... payer les maladies.
Nous agissons comme des fourmis. Nous ne respectons rien, pas même la loi. Nous ne mangeons que des miettes et nous ne partageons pas. C'est par ces mots tranchants que Miss Sokorn, jeune artiste plasticien, décrit la condition humaine cambodgienne d'aujourd'hui. Celle qui se joue ici, de part et d'autre de la longue et large avenue en construction qui constitue la porte du New Phnom Penh. Grouillante et embourbée dans une omniprésente poussière ocre, elle est le théâtre de ce que la mondialisation produit sans doute de pire. D'un côté les gigantesques usines, de l'autre les bidonvilles où s'entassent les ouvriers.
Donc ici on peut voir... Il y a des gens qui reviennent du travail, des gens qui jouent au volleyball, mais on peut voir aussi des plastiques, il y en a partout. Ouais, c'est un peu...
On a l'impression que ce quartier a été bâti sur une décharge. Il y a énormément de déchets, les gens vivent au milieu des déchets et jouent au volley au milieu des déchets.
La plupart, ils ont habitué à ça et du coup, ils...
ils ne voient pas la différence et du coup ils vivent dans cet endroit-là. Ben, le déchet, il n'y a pas beaucoup de ramassage et on voit des petites chambres, parfois en bois, parfois en briques, on voit des tuyaux, c'est un peu aussi des vêtements qui sont séchés juste devant la porte. Il y a certains qui prennent le bain à l'extérieur de la maison. Mais c'est leur tradition, ils ont l'habitude de faire tous les jours la même chose. Depuis 2000, il y en a de plus en plus d'usines qui viennent, surtout des étrangers qui commencent à s'implanter dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a environ 600 usines dans tout le pays et qui emploient surtout des jeunes et des 80%, 90%, ce sont des femmes. Ils ont l'âge environ 20 ans, même pas 20 ans, très très jeunes et qui n'ont pas de boulot dans leur campagne. Donc ils décident de venir à Phnom Penh pour trouver du travail, pour des suppléments de leur agriculture. Mais la plupart des ouvriers, ils essayent de faire des heures supplémentaires parce que leur salaire est très bas. Avant, c'était 85 $ l'année dernière. Mais après la protestation, tout ça, ils commencent à manifester parce que ça ne correspond plus au niveau de vie actuel. Parce que tout est cher, les aliments, le loyer, les nourritures. Ils ne peuvent pas faire des économies pour vivre ou pour envoyer à la famille, parce que le but de venir à Phnom Penh, c'est aussi d'économiser et envoyer une partie des sommes à la campagne, à la famille. Et du coup, le problème qui se pose, c'est qu'il commence à être très fatigué, il n'a pas assez à manger, même des nourritures ne sont pas assez riches. Donc du coup, parfois on les retrouve s'évanouir même à l'encontre des usines. Comme il y a beaucoup de problèmes concernant les conditions des ouvriers, l'année dernière, justement, les ouvriers ont protesté à cause de leurs conditions de travail très dures. Ils souhaitent augmenter leur salaire et les conditions meilleures en protestant nationalement dans tout le pays. Et du coup, il y a des problèmes de l'affrontement, des ouvriers qui sont tués, qui sont blessés. Et au moins 4 ouvriers qui étaient tués par les autorités. Je pense que les usines, le chef de l'usine, il ne veut pas montrer quelles sont les marques qui a produit ici, au Cambodge. Et pourquoi ces marques-là ne sont pas responsables de tout ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des... Les morts sont morts. Personne n'est responsable, personne n'est jugé. Et les blessés, ils sont blessés. Parfois, ils ne peuvent pas aller travailler. Et jusqu'à aujourd'hui...
Et il y a des syndicats, j'imagine, qui défendent les intérêts de ces ouvriers.
Il y a un très grand mouvement des syndicats au Cambodge et les ouvriers, surtout ces dernières années, ils commencent à manifester, à comprendre leurs droits, à parler, à oser parler plus qu'avant.
Pourtant, il y a des syndicalistes qui ont été intimidés, certains ont été battus, d'autres sont en prison, d'autres ont été tués même.
Oui, il y a des syndicalistes qui ont été convoqués par les juges. Ils ont été accusés d'être le leader de ces protestations. Et du coup, ils sont jugés, même ils doivent payer, ils doivent verser beaucoup d'argent pour pouvoir vivre librement, provisoirement à l'extérieur et en promettant de ne pas faire d'autres activités de manifestation. Donc ils sont en menace. Je m'appelle Sornier, je viens de la province de Kampong Cham.
Et alors vous travaillez dans quelle usine?
Je travaille dans l'usine Lordi, pas loin d'ici.
Ils fabriquent des vêtements, des pantalons, des chemises, des manteaux. Il y en a partout, mais je ne connais pas la marque. Ici, j'habite dans une chambre à peu près 2 mètres et demi et de longueur à peu près 4 mètres. Et il n'y a pas de lit, il n'y a pas grand-chose. On a juste un escalier et on monte et on dort en haut là.
Et alors vous vivez avec vos enfants, il y a combien de personnes qui vivent ici?
Je vis avec 3 personnes. Là, mes 3 enfants ils viennent juste me rendre visite. Il y a de l'eau et de l'électricité. Mais parfois, il y a des coupures, surtout le dimanche. Il y a des coupures de l'eau.
Et alors pour ce petit espace où 3 personnes vivent, vous payez combien de loyer?
Je paye à peu près 30 dollars chaque mois. Sinon, je dois payer aussi l'électricité et de l'eau. Donc, ça fait à peu près 35, quelque chose comme ça.
35 dollars et vous gagnez combien par mois?
Avant, ils me donnent 100 dollars. Maintenant, ça a monté à 128 dollars.
Et 128 dollars, c'est assez pour nourrir la famille?
Oui, c'est juste pour vivre de jour en jour. Et parfois, à la fin du mois, on essaie d'emprunter d'argent de certaines personnes pour combler.
C'est quoi votre rêve?
Je n'ai pas vraiment de grands rêves. Bah, je voulais juste travailler. D'habitude, je travaille dans l'agriculture. Et le garçon demande si tu veux pas devenir rêver de devenir riche. Il a dit, bah, je peux pas devenir riche. Je peux pas rêver parce que je peux pas être riche. Tu veux avoir un enfant te donner?
Non, ça va, j'en ai 2. Ouais.
Je ne pense pas que le grand complexe immobilier qu'on a là soit le fruit de la corruption. Je pense en revanche que pour le construire, la corruption a été nécessaire. Comme vous avez une administration assez bureaucratique, mais en même temps un peu foutraque, pas toujours très nette de savoir qui est responsable de quoi, à partir du moment où vous connaissez 1 ou 2 ou 3 fonctionnaires qui vous permettent d'accéder à un sous-secrétaire d'État qui lui-même vous permettra d'accéder au cabinet d'un secrétaire d'État, voire d'un ministre, voire au cabinet du Premier ministre, effectivement, pour y accéder, il faut payer. Ça n'est pas spécifique au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, en Malaisie, dans tous les pays de l'ASEAN et d'Asie, c'est comme ça. Ça n'est pas ça qui heurte les gens. Ce qui heurte les Cambodgiens, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. Si je te paye, toi qui es fonctionnaire, alors j'attends de toi le service pour lequel je t'ai payé. Mais si je te paye et que tu me traites comme un moins que rien, eh bien ça donne les résultats des élections générales de 2013. Les gens qui étaient du parti au pouvoir considéraient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent en toute impunité. Eh bien non, le peuple cambodgien, de loin en loin, commence à manifester son opposition, son désaccord. Il est évident que la pression opérée par des militaires qui, pour certains,
ont des comportements mal dégrossis, pour parler de façon polie, ça, il faut que ça s'arrête. Parce qu'il est clair que les jacqueries sociales organisées par les paysans, et non pas par un complot international, organisées par des paysans cambodgiens, qui ont peur. Puis à un moment, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et moi, j'ai souvenir, lors des manifestations de l'opposition après les élections générales, on rencontrait des Cambodgiens qui disaient « Mais on n'a plus rien à perdre, on a tout perdu. » Je me souviens de Cambodgiens venant de Ratanakiri, des provinces de l'Est. Ils avaient tout perdu, ils n'avaient plus de terre, ils n'avaient plus de maison. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, vous venez voir le Premier ministre, qui est non pas le père de la nation, mais l'homme fort du pays, et vous venez dire au Premier ministre « Monsieur le Premier ministre, rendez-nous une maison et une terre. » Le problème, c'est la contradiction entre le discours et la réalité. Le discours, effectivement, qui a été un peu modernisé, qui était un discours martial, les Khmers rouges, attention, si vous votez pour l'opposition, les Khmers rouges vont revenir, nous sommes la parade contre les Khmers rouges. Mais les Cambodgiens, même les anciens, disent c'est ridicule. En 2013, on ne parle plus comme ça, et a fortiori aujourd'hui en 2015. Et dans le même temps, c'est un libéralisme ou même un capitalisme, l'un des plus violents qui existent, où vous avez de l'argent, vous êtes l'homme au pouvoir, vous êtes l'homme puissant, et les deux combinés conduisent le peuple cambodgien, en tout cas une partie de la population, à dire « Oh mon Dieu, il est puissant, on ne peut rien faire ». Une autre partie de la population qui admire, qui dit « Ah, il est puissant, il est riche, qu'est-ce que c'est bien, j'aimerais bien, bon ». Et puis une autre partie qui commence à être grandissante, qui dit « Il est riche, il est trop riche, ça n'est pas normal. Nous, on est trop pauvres, il faut faire quelque chose ».
C'est, semble-t-il, ce qu'ont compris les 3000 habitants du White Building, complexe immobilier avant-gardiste, chef-d'œuvre de l'architecture moderne cambodgienne, en vogue dans les années 60, situé dans la commune de Tonle Basak, à Phnom Penh. Délabré, en proie aux promoteurs et spéculateurs de tous bords, ceux qu'on appelle les villageois tentent de faire entendre leur voix.
Il parle de la construction de ce bâtiment et les gens ne sont pas contents qu'il y a des investisseurs qui viennent.
C'est quoi les photos qui nous montrent le monsieur là?
Là c'est l'image de ce midi qui a été cassé. C'est un peu détruit là, vous pourriez aller voir, c'est au dernier étage. Et voilà, c'est tout au long, en bas jusqu'en haut. Je ne suis pas content parce que le département de l'urbanisme, il continue à donner l'autorisation aux autres investisseurs de construire un nouveau building pas loin d'ici et qui touche au fondement de ce building.
Comment on fait pour résister à tout ça?
Je ne sais pas comment faire là pour l'instant parce que personne des autorités locales ils viennent pas nous visiter, nous parler et nous expliquer ce que c'est. Je ne sais pas comment faire là. Oui, je proteste moi depuis le matin. Je n'arrête pas à parler, à résister et personne ne m'écoute. Maintenant, les villageois dans ce building commencent à écrire une lettre pour porter plainte aux autorités pour qu'il n'y a pas de violence, pour que les autres personnes ne nous touchent pas et ne nous fassent pas de mal. On n'a rien, on n'a pas d'âme, on n'a rien pour nous protéger, qu'on résiste et on attend la solution. On attend que les investisseurs, au moins, ils fassent une récompensation pour nous.
Mais au Cambodge, on ne résiste pas longtemps devant la force de frappe des puissances en foi, armées et capables du pire. Et si pour les plus faibles, la notion d'urgence prend tout son sens, critiquer les dirigeants d'un régime autoritaire confondant les caisses de l'État et leur argent de poche peut prendre également tout son sens. Une règle que s'impose Pissette, jeune vidéaste formé au centre Bopana. Survivre aujourd'hui au Cambodge semble être tout un art, celui du louvoiement.
On peut parler de tout, tous les sujets de société, comme l'environnement, la vie des gens pauvres ou autres sujets.
Et la politique, on peut parler de politique?
Oui, on peut parler de politique, mais on doit savoir ce qui est la balance.
C'est-à-dire qu'on peut parler de politique, mais on ne peut pas parler de tout en politique.
On peut parler avec tous les amis, mais pour montrer le vidéo au public, on doit faire attention. Au Cambodge, on a la liberté de parler comme ça. Par exemple, dans le réseau social, on peut montrer les idées. Je peux dire qu'au Cambodge, on a une liberté là aussi. Oui. Mais nous, on fait toujours attention. On vit dans une société démocratique, mais on a toujours peur de montrer ce qui est contre de l'idée du gouvernement, je crois. Ici, on a des libertés. On peut parler, on peut critiquer le gouvernement, même au public, on peut faire la manifestation, on peut montrer les idées dans les réseaux sociaux, mais on a toujours peur.
Phnom Penh, une renaissance made in Asia, c'était un reportage d'Alain Lefkovitch, prise de son Laurent Macchietti, mixage Claude Niort. Comment vaincre cette peur qui subsiste au Cambodge? À l'issue de ce reportage, Alain Lefkovitch est allé poser cette question et quelques autres au cinéaste cambodgien Riti Pan, natif de Phnom Penh, et dont toute l'œuvre tourne autour du travail de mémoire.
Si vous voulez construire la démocratie, par exemple, il faut faire le travail de mémoire, il faut faire ce travail de base, sinon la peur continue. On critique beaucoup le travail de mémoire, mais le travail de mémoire, ça permet quand même de travailler, de sensibiliser des gens sur le droit, sur le ne plus avoir peur. Il faut cette peur, il faut le vaincre, il faut oser dire ce que vous ressentez, quelle est votre opinion, quoi. C'est pas un crime de dire ce qu'on pense, c'est pas un crime de dire voilà, il y a les droits, quoi. Il y a un état de droit, il faut construire, mais ça, un état de droit, ça se construit pas sur les décrets, ça se construit aussi avec la prise de conscience d'une population de son droit.
Alors quand on s'est vu tout à l'heure, on s'est croisé, vous veniez d'arriver au centre, je vous ai dit ça serait bien qu'on aille se balader en ville ensemble pour vous me présentiez deux lieux que vous aimez bien dans cette ville. Vous m'avez dit il n'y en a pas, tout a été détruit.
Il n'y en a pas parce que chez moi, parce que j'ai pas envie d'y aller. Chez moi, j'aime beaucoup chez moi, mais chez moi, il n'existe plus chez moi. On a quitté cette maison à l'arrivée de Khmer Rouge, une vingtaine. On est tout seul. J'ai pas envie de retourner tout seul. Je peux vous indiquer où c'est. Vous pouvez y aller. Ça, c'est un endroit que j'aime, qui reste en moi. Sinon, le musée national. J'aime bien le musée national. Moi, j'aimerais bien que les Cambodgiens pensent à préserver un ancien quartier de Phnom Penh, par exemple. Même pour nous, cinéastes, c'est important. Parce qu'on ne sait plus où tourner après. Il n'y a plus d'anciennes villes, on ne sait plus où tourner. Quoi. Si on a un scénario avec des bâtiments anciens, on n'en a plus. Quoi.
Aujourd'hui, comment vous voyez Diamond Island, par exemple, dans cette ville de Phnom Penh? Diamond Island, ça évoque quoi pour vous?
Le développement d'une ville, c'est très délicate. Il faut un sujet, il faut un centre d'intérêt quelque part. On développe quoi, on développe comment, vers où? J'ai l'impression que Phnom Penh n'a pas de schéma vraiment. Ça part dans tous les sens et tout. Voilà. C'est tout ce que je regrette. On pouvait développer les choses, on pouvait construire des choses. Ça coûte pas plus cher de préserver certains traits. Mais l'uniformisation ne vient pas, c'est la mondialisation. Vous avez maintenant une ville, d'abord on n'arrive toujours pas à télé. On met d'abord un câble, 80 chaînes, 100 chaînes. vous avez les karaokés, vous avez les feuilles de temps, tout ça. Puis après, vous avez des villes coréennes, des villes chinoises, tout ça. Puis après, vous avez le même immeuble que vous trouvez à Séoul, aussi bien à Singapour. Aussi. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Après, vous avez la même nourriture. Après, vous avez le même vêtement. Après, vous... c'est ça qui me gêne, quoi. Qui est... C'est ça que je trouve dommage, parce qu'on aurait pu développer Phnom Penh un peu moins haut. Pardon. Mais non, mais en Asie, plus c'est haut, mieux c'est. Moi, je ne suis pas sûr, quoi, parce que haut, ça veut dire que consommer, ça veut dire d'énergie, ça veut dire les portes fermées, les fenêtres fermées. On ne pouvait pas faire un tour de 70 étages avec des fenêtres ouvertes, ça ne se fait pas. Donc, clim, donc un problème clim. Énergie, problème de pollution, vous voyez c'est, ça ajoute quoi.
Alors quand on assèche le lac Bunka par exemple au centre-ville, ou quand on construit des buildings, des grands halls commerciaux, alors deux choses, soit on peut se dire qu'on cache une ville qui nous rappelle une histoire douloureuse, et donc on veut faire partie du monde, on veut être dans la mondialisation, donc on homogénéise un peu l'architecture, comme vous disiez, on trouve la même chose à Bangkok, à Saïgon, à Hanoï, à Singapour. Est-ce que c'est, selon vous, une volonté de cacher ou de pu voir cette ville qui nous rappelle trop de mauvais souvenirs, ou c'est parce que on se modernise dans le but de réintroduire autre chose au milieu de cette nouvelle ville?
Non, je crois que c'est une erreur que tous les dirigeants asiatiques, pas seulement le Cambodge, ont fait, c'est tour, quoi. Puis au bout d'un certain temps que la culture revienne, quoi. Vous prenez Singapour, au début, c'est tour, ils n'ont pas de place. Maintenant, depuis 20 ans, un peu plus, Singapour a parié beaucoup sur la culture. Alors nous, on a une culture là. Notre culture, elle est là. Et on n'est pas encore pris conscience qu'on a une culture, on a une identité forte, que c'est un enjeu politique, économique, quoi, important. Il faut exploiter ça. On n'a pas encore réussi à intégrer ça dans notre plan de développement.
C'était Riti Pan, interrogé par Alain Lefkovitch. Interception est réalisée par Anne Lureau, assistée de Stéphane Combe. La matinée se poursuit sur France Inter avec le journal de 10h dans quelques instants. Bon dimanche.